Bienvenue à Afrique Caraïbe de ce jeudi 6 novembre 2025. Oui, voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Ça va tellement vite, c'est la troisième émission de cette saison. Oui, ça va tellement vite. Alors, préparez quelques sujets culturels et autres. Mais puisque c'est la première fois que le premier sommet du groupe des 20 s'est tenu, a été organisé en Afrique, on peut pas. Je peux pas faire une émission et puis ne pas parler de ça. Quand même. On parle de l'émission Afrique-Caraïbes quand même. Voilà, et puis j'aurai d'autres sujets à traiter aussi. Le lancement du projet d'histoire générale de l'Afrique, je vais en parler. Il y a des gens qui vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est l'histoire de l'Afrique écrite par, maintenant, par les Africains. Voilà, en 11 tomes. C'est un projet qui a commencé depuis les années 60, hein. Mais non, ça n'a pas commencé hier, c'est l'histoire. Voilà, et puis bon, je vais parler en deuxième partie d'émission de la disparition du grand, voilà, Jimmy Cliff, qui nous a quittés il y a deux jours, le 24, à 81 ans. Voilà, et puis il y a d'autres sujets encore hein, qu'on va toucher. Un volcan qui s'est réveillé après 12 000 années, en Éthiopie. Ah, je ne savais pas que les volcans pouvaient dormir 12 000 ans et se réveiller comme ça, quoi. Ah oui, ça arrive. Ça m'a fait penser à un déplacement que j'ai pu faire il y a quelques années de cela en Alsace. On marchait sur les cratères d'un volcan qui dort depuis des milliers d'années. Et j'avais, oui, cette région est remplie de vignerons. Il y a beaucoup de gens qui cultivent le vin là-bas. Et ça pousse très bien. C'est du bon vin sur dans les endroits volcaniques, quoi. Et j'ai demandé au monsieur qui nous guidait, mais si ça arrive que ce volcan qui dort depuis je ne sais combien de milliers d'années se réveille, il dit, mais là, on est mal parti.
On sort du vin chaud. Oh,
d'abord, s'ils arrivent à survivre, ils ne prévient pas avant de venir. Hein. C'est comme un tremblement de terre, paraît-il. Ça. En Éthiopie, je vais en parler plus tard d'ailleurs. Alors, on commence avec... ce qui vient de se passer en Afrique pour la première fois. Alors, une première. Et puis quoi encore? Il y a quelque chose que j'ai reçu de la part de Danse Danse de Montréal. Danse Danse, c'est le palmarès 2025 des 15e prix de la danse de Montréal. C'est intéressant aussi. Hein, ça fait partie de la culture, la danse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tous sont partis. On va parler un peu avant d'aller en musique. Ouais, Mathieu. Oh, j'ai oublié. À la régie là-bas derrière la console, mon complice, Mathieu Tessier. Salut Mathieu.
Salut Féjean, salut tout le monde.
Il avait commencé à rire avant que je lui dise bonjour. Bonjour en direct. Oh, honte, je lui ai déjà dit bonjour. Oh, ça, c'est clair.
Moi, j'entends le thème et je souris. Hein.
Olé. Comment vas-tu, Mathieu?
Ça va. Voilà. Lui-même?
Ouais, je veux bien. Avec, il y a tellement de nouvelles qu'on se dit, bon, ben, on se gêne pas, même s'il n'y a pas d'invité, quoi. Je dis à notre invité qui devait être là, de bien se porter un prompt rétablissement pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine ou bien celle d'après pour venir parler de son album qui est sorti depuis le 24 octobre. Alors, le premier sommet du groupe des 20 organisé en Afrique pour la première fois, qui s'est achevé dimanche. Ok, innover en plaçant les priorités des pays, j'aime pas trop ça, bon, les pays dits pauvres, voilà, parce que les critères de richesse, de pauvreté, je sais pas comment c'est évalué, quoi, quels sont, où on met le baromètre, je sais pas comment ça se fait. Au cœur de l'agenda du bloc, donc, le pays hôte, l'Afrique du Sud, qui a négocié une déclaration de sommet signée par certaines des nations les plus riches, oui, du monde et les principales économies émergentes qui ont accepté d'accorder davantage d'attention mondiale aux enjeux touchant particulièrement les pays en développement. Donc cela inclut quoi? L'impact du changement climatique sur les pays dits pauvres, la hausse de leur niveau d'endettement et puis les conditions d'emprunt qui sont injustes auxquelles ils font face. Je parle de ces pays en développement. Ainsi que leur appel à l'aide aussi pour accomplir leur transition vers des sources d'énergie vertes. Mais les États-Unis ont brillé par leur absence, ils ne sont pas présentés parce que ça se tenait en Afrique. Il a dit non, il n'en est pas question. Et il faut le reconnaître, Trump n'aime pas la tête du chef de l'État sud-africain. Il n'a jamais aimé les Sud-Africains noirs de toutes les façons. Il les accuse de génocide contre les Sud-Africains blancs. Voilà. C'est lui qui le dit, hein. C'est ce que...
Oui, on a compris.
Voilà. C'est pas moi qui le dis. Alors, salut Mathieu. Donc, les États-Unis, membres fondateurs du G20 et première économie mondiale, ont boycotté le sommet. Ils ne se sont pas déplacés en Afrique du Sud. Ils ont voulu se faire remplacer par l'ambassadeur américain à Johannesburg. Ah non, 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 le président, le gouvernement sud-africain a dit non. On ne peut pas remettre parce qu'ils doivent... Là, après, ça va se passer l'année prochaine, je pense bien, aux États-Unis. Ils doivent remettre un morceau de bois, quelque chose comme ça, au pays qui organise après eux. Et les Américains voulaient que le président, le chef de l'État sud-africain remette ça à l'ambassadeur. Le président dit non. Je remets à un chef d'État, mais pas un ambassadeur. C'est comme ça que c'est dans les lois. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? À partir de... Depuis, c'est fini dimanche. Donc, depuis lundi, c'est les États-Unis qui prennent la tête du G20. Voilà, ils ne se sont pas déplacés. Mais ils seront obligés de travailler ensemble jusqu'au prochain sommet. C'est fou, hein. Comment ils vont se comporter? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le G20, qui compte 21 membres d'ailleurs, a été créé en 1999 pour s'attaquer aux problèmes économiques mondiaux. Il réunit notamment les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde... La présidente, comment dirais-je, l'un des piquets encore là, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi des pays comme le Brésil, l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Mais je ne sais même pas pourquoi l'Inde fait partie de ça, je ne sais pas. Quels sont les critères? Même l'Afrique du Sud, même si on retourne dans les histoires de jeux, là. Je me pose la question aussi quelquefois, quoi, voilà. Quels sont les critères pour les intégrer? Et aussi à l'Union européenne? Puis il y a l'Union africaine qui est là-bas aussi. La déclaration de 122 points publiée lors du sommet de Johannesburg n'est pas un document contraignant, mais plutôt un reflet du consensus, quoi, voilà. Elle affirme que les nations se sont engagées à travailler ensemble pour mobiliser des financements publics et privés, bien sûr, afin d'aider les pays pauvres à se relever des pays dits pauvres, je dirais. Alors, se relever des catastrophes liées au climat qui deviennent de plus en plus dévastatrices. Pour eux. Voilà, on cite là du côté de l'Afrique le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe qui ont été frappés récemment par des cyclones récents, renforcés par les changements qui ont causé des milliards de dollars de dégâts. Mais dans d'autres parties du monde, il y a plus grave que ce que moi j'ai vu, les images de Mozambique et autres que j'ai vues de l'autre côté de l'Asie par exemple. Il y a tout le temps les typhons et autres, je ne sais quoi là. Voilà. Donc, les représentants des pays en développement invités comme observateurs ont exposé leurs difficultés liées à la dette et à l'emprunt, notamment en Afrique. Le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui est chef du bloc économique d'Afrique de l'Ouest, a déclaré que les pays de sa région étaient confrontés à des taux d'intérêt jusqu'à 8 fois plus élevés que ceux appliqués aux pays riches pour les mêmes prêts internationaux. Mathieu, tu vois la différence?
Ouais. Oui.
Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? L'Afrique n'a pas besoin de charité, a déclaré Julius Maada Bio, mais de conditions d'emprunt équitables, c'est tout ce qu'on demande. Vous dites que nous sommes, vous dites que nous sommes des pays pauvres, mais quand vous nous faites des prêts, il s'adresse directement au FMI, à la Banque mondiale. Quand vous nous faites des prêts, c'est oui, les taux sont 8 fois plus élevés que les taux que vous accordez à la France, aux États-Unis, à l'Allemagne et autres qui font les mêmes prêts. Allez-y comprendre quelque chose, quoi. Alors, c'est vraiment... Il y a la présidente de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, qui a indiqué que son pays était considéré comme à haut risque par les prêteurs, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI, malgré le remboursement ponctuel d'une obligation de 750 millions de dollars. Voilà. Ouais, elle rembourse. Alors, on s'est... ouais, il est en train de faire ses essais encore, Mathieu, sur la carte de l'Afrique, quoi. Alors là, vraiment, et puis concernant la guerre en Ukraine, ils ont parlé, ils ont mentionné ça une seule fois, et puis la guerre civile aussi au Soudan, ils ont mentionné une seule fois. C'est pas si important, quoi, ce genre de sommet, ils ne parlent pas de ça. Ils ne sont pas là pour ça, pour parler de guerre. Et voilà, on verra bien ce que ça va donner quand ce seraient les États-Unis qui seront... Voilà. Ouais, j'espère bien que ça va permettre aux gens de passer à autre chose, quoi. Ouais. De passer à autre chose à un moment donné, de changer même le nom de G20 ou bien donner une autre définition, quoi. Je sais pas. On va en musique.
Avec plaisir. Ouais.
Dear God, it's me again. Every now and then I pray, wishing for a day when life feels balanced, when the weight finally fades away. But hey, you give the hardest battles to the ones you call your own. I may stumble, I may fall, but I know I'm not alone. Dear God, I'm worn down, but I still say amen. And even when I fall, I know you lift me again. These nights feel heavy, my heart feels torn, but your mercy's new with every dawn. I know you're coming back, so I'll pick up my slack. Help me follow your plan, even when I don't feel strong enough to stand. Dear God, I've made mistakes, broken promises, choices I regret. But through the shame, through the pain, you remind me you're not finished yet. When the storm,
ça c'est la voix d'un jeune Kenyan que j'ai découvert dernièrement au American Get Talent là. Oui, oui. George Paul, il est dangereux ce garçon. Quand je dis dangereux, ça veut dire qu'il est très bon. C'est là où je veux venir. Il est très bon, il chante en swahili, en langue kenyane et puis en anglais aussi. Dear God, it's me again, George Paul. Tapez sur Google là-bas, vous allez voir, hein. Il a mis des milliers de vidéos là-bas. On continue, je vais parler un peu du Black Theatre Workshop ici à Montréal, le théâtre BTW qui présente la première montréalaise de la pièce Our Place par Kanika Ambrose, qui est une dramaturge d'ailleurs. Elle est très très puissante, sincère et charmante. C'est jusqu'au 30 novembre 2025 au studio du Centre Ségal des Arts de la Seine. C'est au 51-70 chemin de la côte Sainte-Catherine. N'oubliez pas. Ça a commencé hier 25 novembre, aujourd'hui, le 26, demain 27, 29 et le 30. Hier, on ne peut plus parler de ça, aujourd'hui on peut en parler, c'est déjà passé. Le 26 aujourd'hui, ça a du 9h30, le 27, ça a du 9h30 aussi, le 29, ça a du 9h30 et le 30 novembre, ça va être à 15h. Voilà, ça va être à 15h. Donc, le théâtre Black Theatre Workshop qui célèbre cette année aussi sa 55e saison. C'est pas né hier, hein. 55e saison. Voilà, fier de présenter la première montréalaise de la pièce Our Place par la dramaturge Kanika Ambrose. À ne pas manquer, hein, cette pièce humoristique dévoile aussi les complexités du système d'immigration canadien et de ses multiples enjeux. C'est très important. Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre nouvelle vie dans un nouveau pays ? nous présenter au studio du Centre Sega des Arts de la Scène jusqu'au 30 novembre avec notamment un souper spécial et puis une conférence aussi avant le spectacle. Voilà, en présence de l'invité spécial du théâtre Black Theatre Workshop, la psychothérapeute Charlotte Wint. Voilà, donc la pièce à Webplay s'est présentée en anglais avec sous-titrage en français, bien sûr. Ouais. Ça se passe dans l'ouest de Montréal, effectivement, il faut comprendre quoi. Voilà, les personnages qui travaillent au noir, dans un restaurant, c'est dans la pièce Webplay, fast-food caribéen, ils rêvent de se marier pour pouvoir rester au Canada. La pièce trouve aussi un écho particulier à l'heure actuelle en mettant l'accent sur les thèmes de la navigation et de l'anticipation des systèmes. C'est-à-dire, les rêves d'un monde où d'une vie meilleure poussent les personnages à se cacher, à se taire et à flirter avec la criminalité. Ça va ensemble, hein, ouais. Les liens avec la communauté et notre responsabilité les uns envers les autres sont remis en question lorsque la survie des plus faibles d'entre nous reflète à quel point la frontière entre le bien et le mal est floue. C'est bien dit, hein? Ouais. Ouais. Les petits choix ont de grandes conséquences et la résilience est indispensable. Ouais. Ouais. C'est Diane-Marie Bridge, éducatrice artistique du théâtre Black Theater Workshop et metteuse en scène de Our Place qui dit ça. Waouh, c'est intéressant. Alors, ceux qui aiment le théâtre, pourquoi pas? Si vous habitez l'ouest de Montréal ou bien si vous avez envie de découvrir cette pièce, faites le déplacement. C'est jusqu'au 30. Hein. Voilà, 51-70 Chemin de la Côte Sainte-Catherine, au studio du Centre Ségal des Arts de la Seine. J'ai assisté à plusieurs spectacles là-bas depuis quelques années. Voilà. Très...
Ça fait très longtemps que je suis allé.
Est-ce que tu sors de moins en moins dans l'Ouest, toi?
C'est sûr que quand je restais dans Côte-des-Neiges, j'y allais souvent. Là.
À l'époque, quand j'habitais aussi l'Ouest de Montréal, j'étais fréquent là-bas, je me rappelle bien. Ouais, c'est vrai. D'ici, pour aller jusque là-bas, c'est tout un voyage. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une petite pause publicitaire encore? Ou bien musicale?
Une musicale.
Musicale, dirais-je. Je voulais dire, d'ailleurs.
Même si la souris triple de taille, elle ne fera jamais trembler l'arbre. C'est mauvais, c'est dangereux, c'est toxique.
Tapez dedans!
Baby Philippe de Côte d'Ivoire. Taper des dents, ouais, du coupé décalé, pur. Voilà, on a encore quelques minutes avant d'arriver à la première, à la fin de la première partie de l'émission. Je vais parler de cette première en près de 12 000 années. 12 000 ans. Éruption du volcan Haïli Gubi en Éthiopie, descendre jusqu'en Inde. Allez-y comprendre quelque chose. Ah oui. Ah ouais. Ouais, un volcan qui a dormi 12 000 ans, qui s'est réveillé tout d'un coup, là. Ça s'est passé dernièrement, là, le dimanche. Donc, le volcan Haïli Gubi, situé dans le nord-est de l'Éthiopie, est entré en éruption ce dimanche 23 novembre dans la matinée. Une première depuis environ 12 000 ans. Voilà, un panache de cendres volcaniques a traversé la mer Rouge, Oman, le Yémen, avant d'atteindre Delhi et le nord du Pakistan. Voilà, plusieurs vols ont été annulés, retardés ou déroutés en Inde. D'ailleurs, le volcan proche de la frontière entre avec l'Érythrée est situé en région Afar dans le nord-est de l'Éthiopie. Oui, environ à 800 km de la capitale d'Addis Abeba. Il se trouve dans la vallée du Rift, zone de grande perturbation géologique par la rencontre de deux plaques tectoniques. Ça peut se comprendre là. Et une grande activité volcanique dans cette région. Donc, le programme mondial de volcanisme a affirmé ne pas avoir connaissance d'une éruption volcanique de, c'est vrai, l'île Gubi depuis l'Holocène, la période débutée il y a environ 12 000 ans à la fin de la dernière glaciation. Waouh, personne ne s'attendait à ça. Hein. Ouais. Ils n'ont même pas vu avec les appareils là-bas. Là. Il y a quelqu'un qui a été interrogé par l'agence France Presse qui a dit que il y a eu un tremblement avant le réveil du volcan. Et souvent ils ont des tremblements de terre dans cette région là d'ailleurs. Ah bon, c'est une région tectonique, hein, c'est pas évident. Paraît-il que l'Afrique même risque de se couper une fois là-bas encore, deux dans cette région là. Voilà, il y a un autre océan, une part d'océan qui va se créer encore. Alors, voilà, alors des cendres jusqu'à 15 km d'altitude. 15 km d'altitude. Ça me fait penser à du volcan en Irlande là, qui avait fait bloquer il y a quelques années de cela. Je ne sais pas si c'est en 2010 là-bas ou quoi là. Bloquer tous les aéroports européens. Il y avait un volcan qui avait complètement bloqué le ciel, l'espace aérien européen. C'est comme ça. Quand ça chauffe, quand ça bouge, là, ça va très loin. Alors, moi, ceux qui sont en Éthiopie, là, si vous avez envie de voir ce volcan, allez-y, avec avec toutes les précautions qu'il faut. J'adore le volcan, mais de loin. Ne me demande pas de m'approcher d'une cratère de volcan, d'un comment on appelle ça. Et puis, attends, j'ai oublié de dire quelque chose. La grandeur de son... Combien de... 200 mètres, si je ne me trompe pas. Oui, 200 mètres de grand, de largeur.
Wow.
Ouais, le trou, là, d'où sort le... 200 mètres, ça, mais c'est quelque chose quand même. Hein. On ne peut pas jouer avec ça. Oui, c'est 200 mètres. Ouais. Mais il n'y a pas eu de mort. Hein. Les gens ont pu quand même... parce que les gens n'habitent pas juste à côté, là. S'il y avait des plantations ou bien des habitations à côté, là, ça les emportait en même temps, quoi. On a déjà vu des vidéos dans le monde comme ça. Alors, on termine la première partie de l'émission en musique.
Avec, exactement.
Avec qui? Avec JJ, une jeune... C'est toute une découverte que je viens de faire. JJ, une jeune Camerounaise qui n'a même pas encore pu faire sa place sur le marché musical. This Life, c'est quelque chose de... C'est pur, c'est de l'afro beat pur. Quand tu entends le style, on dirait une Nigériane. Non, c'est pas une Nigériane, c'est une Camerounaise. JJ, This Life.
I don't do many things, I don't get fucked up. I know these lies.
to be raising wine. Yeah, I baby, alone, alone, daddy, follow mommy, cause I don't see a why. Oh, I don't do many things, I don't do many things, I don't get for do. I don't see many things, I don't see many things, I don't get for see. I don't go many work, I don't go anywhere, I don't get for go. I don't do many things, I don't do many things, I don't get for do.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Oui, nous sommes à la deuxième partie de l'émission. Avant de parler du décès de Jimmy Cliff, j'ai d'autres sujets encore abordés avant d'aller parler de cette nouvelle triste, la disparition du grand musicien de reggae jamaïcain. Je parle maintenant de l'histoire générale de l'Afrique, une narration de l'histoire du continent africain et de ses habitants qui porte les signatures des meilleurs spécialistes du domaine, une très grande réussite de l'UNESCO. Voilà, donc c'est un chantier intellectuel commencé en 1964 qui s'achève maintenant. Oui, ouais, ça date pas d'aujourd'hui. Donc l'UNESCO a annoncé la finalisation des trois derniers volumes, parce qu'il y avait déjà deux qui étaient déjà sortis. Donc un projet conçu pour raconter l'histoire du continent depuis sa propre perspective. Voilà. Donc, sous la direction de figures telles que Cheikh Anta Diop, à son âme, Gibril Tamzi Ndiaye ou Théophile Obenga, plus de 750 chercheurs ont participé à la rédaction de 11 volumes intégrant les traditions orales, les manuscrits africains, l'archéologie et la linguistique historique. Mais l'enjeu aujourd'hui ailleurs est faire vivre cette histoire dans les écoles africaines. Ah oui, il faut arriver à le faire. Pour cela, l'UNESCO a créé le curriculum Pafoué Toul, une plateforme pédagogique destinée aux ministères et enseignants pour adapter ses contenus aux classes du continent, complétée par des ressources numériques comme le jeu Héros africains. Au-delà de l'édition, l'objectif est clair. Réapproprier la mémoire africaine et en faire un levier éducatif et culturel pour la jeunesse du continent. C'est ça, l'histoire générale en Afrique. En 64, d'ailleurs, alors que les nations africaines accédaient à l'indépendance, l'UNESCO a réuni des experts africains et internationaux de premier plan pour lancer l'histoire générale de l'Afrique, une initiative d'ailleurs visionnaire visant à reconstruire l'histoire du continent selon une perspective africaine. Donc, cette œuvre pionnière reste inégalée par son ampleur et son ambition, couvrant l'histoire de l'Afrique depuis les origines de l'humanité jusqu'aux défis contemporains auxquels sont confrontés les Africains et leur diaspora à travers le monde. Donc, cette œuvre constitue une réalisation emblématique réaffirmant la place centrale de l'Afrique dans l'histoire commune de l'humanité et sa contribution durable à notre avenir partagé. Très belle collection de volumes. La collection se compose de volumes entièrement illustrés, chacun accompagné d'annotations détaillées, d'une bibliographie complète et d'un index. Donc c'est une œuvre monumentale quand même, hein. Représente 60 ans de collaboration entre plus de 750 quand même historiens et spécialistes, supervisés par un comité scientifique international composé par 2/3 de membres africains. C'est normal, puisqu'il s'agit du continent, du vieux continent, comme je l'appelle. Voilà, le volume 1, c'est la méthodologie et préhistoire africaine. C'est un volume qui explore l'historiographie et la préhistoire de l'Afrique, y compris l'art, l'agriculture et la métallurgie. On en parle très peu dans d'autres livres, hein. Surtout la métallurgie. Volume 2, Afrique ancienne. Le volume 2 qui couvre 9000 ans d'histoire africaine. 9000 ans. Voilà. En se concentrant sur les principales régions et en mettant l'accent sur l'Égypte ancienne. Volume 3, l'Afrique du 7e au 11e siècle. Voilà, le volume 3 couvre l'histoire de l'Afrique du 7e au 11e siècle, mettant en lumière la diffusion de l'islam au nord et à l'ouest, ainsi que l'expansion bantou au sud. Volume 4, l'Afrique du 7e au 16e siècle. Voilà, c'est 11 quand même, 11 volumes. C'est le volume 4 qui examine l'Afrique du 7e au 11e, en mettant en évidence l'histoire, le sort de l'islam, l'expansion du commerce et les échanges culturels, ainsi que la croyance des royaumes et des empires. Et le volume 5, l'Afrique du 16e au 18e. Le volume 5 couvre l'Afrique du 16e au 18e en se concentrant sur le développement interne des États et des cultures, ainsi que sur l'implication croissante dans le commerce extérieur. Et le volume 6, l'Afrique du 19e siècle, jusque vers les années du 1880. Ouais. 80, en mettant en lumière les efforts de sociétés africaines pour se moderniser et se développer malgré l'influence européenne croissante. Volume 7, l'Afrique sous domination coloniale de 1880 à 1935. Ouais. Partage de l'Afrique par les puissances européennes jusqu'à l'invasion italienne de l'Éthiopie en 1935. Mais ils n'ont pas réussi. Les Éthiopiens les ont mis dehors. Ils les ont boutés. Ouais, c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé en Afrique. L'Éthiopie. Ouais. Et en se concentrant sur les réactions africaines face au colonialisme. Volume 8. L'Afrique depuis 1935. Ouais, ouais. À nos jours. Analysant le développement politique, économique et culturel du continent et mettant en lumière son indépendance, son interdépendance mondiale croissante. Ensuite sont venus s'ajouter 3 autres volumes, ça fait 11 au total, 3 nouveaux volumes, là. Le volume 9, 10 et 11 qui sont venus s'ajouter aux autres là, pour avoir 11 au total. Ces volumes présentent le concept novateur d'Afrique globale qui considère le continent comme une partie centrale et interconnectée de l'histoire de la culture mondiale et de la culture mondiale. Ils mettent en lumière l'influence de l'Afrique à travers ses diasporas, le commerce, les migrations et les échanges culturels, en soulignant ses contributions essentielles aux sociétés du monde et en la présentant comme... Ouais. Ouais. Comme un. Ça, c'est clair. Waouh. J'ai dit bravo à tous ceux qui sont derrière depuis 1960. Il y a d'autres qui sont déjà partis. Tchèque Anta Diop, le Sénégalais, il y a une université à Dakar qui porte son nom, l'université Tchèque Anta Diop. Il a été le premier égyptologue africain, c'était mathématicien, prof de mathématiques en France, qui est devenu égyptologue par la force des choses. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas content de ce que les Occidentaux, qui ont eu la chance de se déplacer en Égypte et qui revenaient raconter complètement le contraire de ce qu'ils ont vu sur place. C'est comme ça qu'il est devenu égyptologue. Ça l'impressionnait, il voulait savoir... Qui sont ces gens qui ont construit ces pyramides-là ? Qui sont ces personnes-là ? Les gens, ils vont, ils viennent et puis racontent autre chose. Sinon, lui, il était prof de, prof de maths, hein, chercheur en mathématiques. Oh, ouais. Après, il a tiré le trait, il s'est consacré à l'égyptologie. J'ai 3 de ses bouquins, d'ailleurs. Hein, parce que j'apprécie sa plume aussi. Hein. Voilà. Je ne connais pas ses travaux en mathématiques, mais son parcours égyptologique m'a beaucoup fasciné. Je l'ai beaucoup lu avant d'aller en Égypte, d'ailleurs. Voilà. Avant d'attaquer la disparition du grand musicien de reggae jamaïcain, on passe une de ses pièces ? Oui.
I can see clearly now.
Yeah.
I am feeling very Olympic today. How about you?
Vous avez reconnu sa voix, c'est bien la voix de Jimmy Cliff. Ah ouais, la mort de ce monsieur, ce grand monsieur. C'était pas hier, avant-hier, c'était le 24, à 81 ans. De Many Rivers en 69 à Reggae Night en 83, il s'est fait l'ambassadeur du ska et du reggae avant l'icône du genre Bob Marley. Il s'est éteint le 24 novembre, 81 ans. Jimmy Cliff, monument de la musique jamaïcaine. Voilà. De quoi il est mort des suites d'une crise d'épilepsie et d'une pneumonie, a annoncé son épouse. Avant Bob Marley, il avait déjà popularisé le reggae en dehors de la Jamaïque grâce à ses premiers tubes Many Rivers to Cross. Comme ce qu'on vient d'écouter, oui, oui. Ouais, en 69. Repris plus tard par Joe Cocker, entre autres, de Hard Day Come en 72, titre d'une chanson d'un film de Perry Henson, dont titre incarna le personnage principal, faisant de lui la première star internationale du genre avec Reggae Night en 83. Il maintiendra son statut quelque peu éclipsé dans les années 70 avec l'aura, le charisme de Bob Marley. Voilà. Et pourtant, c'est lui qui a permis à Bob Marley d'enregistrer ses deux premiers tubes. C'est pas le maître, l'élève qui vient dépasser le maître, c'est quelque chose comme ça. Mais ils avaient deux styles complètement différents de messages de reggae. Contrairement à lui et ses 34 albums au compteur, il a connu une carrière éclair avant son cancer fatal. Mais voilà, c'est 82. Ouais. Voilà, Bob Marley. Jimmy Cliff, c'est pourtant Jimmy Cliff qui a permis à Bob Marley d'enregistrer deux de ses premières chansons solo, Judge Not and One Cup of Coffee, en lui présentant son producteur Leslie Kong, c'était le grand Leslie, un marchand de plus glace qui avait donné à son petit label le petit nom que celui de sa boutique, Beverly's. Rencontré en 2012 pour la promotion de son 33e album Rebirth, pour lequel il obtiendra le second Grammy avant Award du meilleur album reggae de sa carrière. Jimmy Cliff confiait son amertume et sa jalousie vis-à-vis de Bob Marley. C'est normal. Il a commencé, c'est lui qui a fait connaître le reggae à l'extérieur de la Jamaïque avec les Johnny Nash et autres. Même les gens se demandent encore qui a joué, qui a été le premier à faire la première version de No Woman No Cry. Est-ce que c'est Jimmy Cliff ou bien c'est Bob Marley? Tu vois, c'est resté... Chacun fait sa réponse. Hein. J'adore les deux, peu importe celui qui a chanté avant l'autre. C'est comme Bongo Man, une de leurs pièces aussi, chantée par Jimmy Cliff et repris par Bob Marley aussi. Les gens se demandent, mais qui a copié qui? On dit, laissez-nous tranquilles, c'est des amis. Voilà. Même s'ils n'ont pas la même... Ils font la même musique, mais chacun son style de reggae. C'est beaucoup plus rock, pop, ce qu'il fait, Jimmy Cliff. Plus... Festive, Bob, il était beaucoup plus engagé. Jimmy était engagé aussi, mais d'une autre manière. Voilà. Donc, c'est pas, faut pas jouer. Il est né quand? Quelle année là? Ouais. En 44. Ouais. C'est la même année que la Jamaïque est devenue indépendante, autonome. Totalement indépendante en 62. C'est-à-dire autonome en 44 et totalement indépendante en 62. Élevé par son père dans un milieu très pauvre, Jimmy quitte l'école à 13 ans. Il apprend les chansons de rock and roll, de Fat Domino, c'est comme ça. Ça a été l'influence, quoi. C'est ce qui fait qu'il a eu ce genre de reggae. Pas de roots, il faisait pas de roots reggae comme Bob et autres, là, voilà. Les Little Charles, Bobby Day, Dee Clark, Fat Domino. Sa carrière débute lorsqu'il quitte la campagne en autobus pour la capitale Kingston. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale de la Jamaïque. Où il rencontre Count Boise, ne pas confondre avec Count Basie, le jazz, le musicien de jazz. Voilà, avec qui il enregistre les ska. Daisy Got Me Crazy, I'm Sorry for a Sound System de Sir Cavalier. En 61, fait 61, il propose quelques chansons de Leslie Kong, dont le titre Dearest Beverly, qui décide, le marchand de glace a investi dans son premier enregistrement et a créé la marque Beverly's. Le disque sort en Angleterre chez Atlantic Records, en même temps que celui de Bob Marley. Seul, Hurricane Hattie et Jimmy Cliff deviendra un succès. Il enregistre d'autres singles chez Leslie, dont King of the Kings et l'énorme succès de local Miss Jamaica. Tu vois, c'est comme ça. C'est parce qu'il y avait une communauté jamaïcaine en Angleterre. Donc ça bougeait, c'est comme ça que le reggae a atterri en Angleterre, parce qu'il y a cette communauté jamaïcaine qui était là-bas. Donc en 64, Gimme, il part en tournée avec Baron Lee et s'envole avec lui pour New York, en compagnie de Prince Buster, Millie Small et Detroit Wilson, dans le but de promouvoir le ska aux États-Unis. Et au cours de la même année, il est choisi comme l'un des représentants de la Jamaïque à l'exposition internationale et participe à un programme appelé This is Ska. Ouais. Le ska existe encore. Il y a pas mal de groupes, surtout en Europe. Je ne sais pas, je ne connais pas de groupe de ska ici. Je connais pas mal de groupes qui tournent en Suisse, en Allemagne et autres. Des groupes qui ont gardé ce style de reggae là. C'est un peu speed, hein. c'est pas du root. Voilà. Hein, Mathieu, tu connais le ska, non?
Oui, mais oui, je oui, oui.
C'est pas du root, hein. c'est un peu speed, là, c'est un peu rapide.
Il y a voilà. Souvent beaucoup de cuivre.
Oui. Il y a des groupes qui ont, en Europe, qui ont fait ressusciter ce style de reggae, quoi, de musique, là, le ska. Ça tourne encore. Et puis, côté de Prince Buster, et puis bon, il y avait les Totem de Maysole, c'est un groupe que j'ai eu la chance de voir aussi en spectacle. Kimmy Cliff, je l'ai vu au moins 4-5 fois en spectacle dans les festivals en Europe. Ouais. C'est... Les Totem de Maysole, ils ont fait aussi le temps. C'est comme d'autres groupes encore qui sont venus après, quoi. Et chaque groupe a son étiquette. C'est pas le même style de reggae... que les autres. Bob Marley, il avait son style. Gimme Cliff avait son style. Bunny Wailer, c'est l'un des groupes. Bunny Wailer, des compagnons de Bob avec qui ils ont créé les Wailers. Voilà, le nom même le dit, ouais. Et il vit encore, hein. Il vit encore, il fait carrière solo depuis que le groupe s'est cassé. Et puis, Bunny Wailer, Bernie Spears aussi, il vit encore. Ça, c'est des gens qui... voilà, qui ont permis à cette musique reggae de vivre jusqu'à aujourd'hui. Il y a la nouvelle génération qui continue dans son style bien particulier à lui. Il y a beaucoup d'anciennes pièces musicales, même de rock, de pop, qui ont été reprises, mixées en reggae. Voilà. On avait écouté, il y a 2 semaines, une des pièces de Prince. Voilà. Des Purple, là. La version reggae. Musique. Gimme Cliff. We'll be jamming till the morning light. yeah, Reggae Night. C'est Gimme Cliff, ça, voilà. Alors, avant de passer parler, ouais, passer une dernière pièce de Gimme Cliff, je vais parler de Noël Gospels. Voilà, 29 au 30, date des représentations. C'est le 29 à 15h, le 29 à 20h et le 30 à 16h. Il y a trois dates. Ah oui. Le 29 à 15h, le 29 à 20h et le 30 à 16h. c'est Jerry Gospel Corps, c'est Montréal Gospel Corps et Carole Bernard d'ailleurs. Jerry Gospel Corps, c'est dans la plus pure tradition du gospel d'ailleurs, du Negro Spiritual Hip Hop. Jerry Gospel Corps, Carole, propose une musique vibrante où se mêle authenticité, audace, gaieté et profondeur. Ça se passe où? 300 boulevards de Maisonneuve Est. C'est, disons, c'est à l'intérieur de l'UQAM, hein, si je ne me trompe pas. C'est, ouais, ça fait partie de l'UQAM. Ouais, à la salle Pierre-Mercure, c'est là? Au métro, là. Ça fait partie des propriétés de l'UQAM, si je ne me trompe pas. Ouais. 300 boulevards de Maisonneuve Est à Montréal, salle Pierre-Mercure. N'oubliez pas, hein, 29 à 15h, 29 à 20h et le 30 à 16h. Allez-y voir, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe de gospel, là, leur album Get Up a été couronné album gospel de l'année par la Gospel Music Association Canada. Ouais, 2022, hein. Les 15 chanteurs, 5 musiciens, c'est du monde quand même. Ça fait plaisir, allez-y les voir. Alors, un dernier mot sur Jimmy Cliff, avant de passer une dernière pièce, la dernière pièce qui sera d'ailleurs de Harder They Come. Alors que son... Qui repèse en paix, que la terre lui soit légère, que son âme repose en paix, et longévité à son épouse, à ses enfants qui vivent encore. Il a fait sa vie, lui, il est parti. Et les amoureux du reggae sont en deuil, hein. Ça parle de ça depuis avant-hier, partout. Il y aura des événements qui vont se produire. Hommage à Jimmy Cliff, hommage à Jimmy Cliff, hommage à... Comme ça s'est fait au temps de Bob Marley quand il nous a quittés. Moi, c'est un de mes artistes de reggae préférés d'ailleurs. Il n'est pas le seul, il fait partie de ceux que je préfère, ceux que je suis. Et Bob est parti, Jimmy vient de partir, Bunny Wheeler, Bernie Spear, ils sont encore là. Tous les autres... qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on a encore du temps pour une dernière pièce, au moins. Dernièrement, comment s'appelle cette dernière qu'on va écouter de Harder They Come, Jimmy Cliff. Merci à toi, Mathieu.
Merci à toi, Fulgence.
Oui, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Voilà. Et merci à nos fidèles auditeurs qui nous suivent, ouais, tout le temps depuis le début de cette émission, de retour à la nouvelle saison aussi. Et sur ce, je vous dis ciao avec de Harder They Come de Jimmy Cliff.